Il est tout juste midi sur France Culture. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 pour la grande table et le journal de 12h30 qui sera présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Quelques titres.
D'abord cet accord qui a été finalisé dans la nuit à la SNCF sur le temps de travail. Le PDG Guillaume Pepy estime que la négociation a maintenant abouti à un point d'équilibre, qu'il n'y a plus aucune raison de poursuivre la grève. Les syndicats consultent en ce moment même leur base. On fera le point avec Anne-Laure Chouin. Le déficit de la sécurité sociale va continuer à diminuer cette année, rapport de la commission des comptes. Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse devrait passer sous les 10 milliards d'euros. Jean-Marc Chardon nous expliquera pourquoi. À l'étranger, une attaque à la voiture piégée dans un quartier historique d'Istanbul à nouveau. 11 morts, dont 7 policiers. Erdogan pointe du doigt les rebelles kurdes du PKK. La Californie, mais aussi le New Jersey, le Montana, le Nouveau-Mexique, les Dakotas du Nord et du Sud, théâtre du dernier grand duel d'une course à l'investiture démocrate particulièrement longue et combative, mais selon le décompte de plusieurs médias américains, cette nuit Hillary Clinton disposerait d'ores et déjà d'un nombre suffisant de délégués. Et puis c'est le coup d'envoi du grand exercice militaire de l'OTAN qui implique 26 000 soldats à un mois seulement du sommet de l'Alliance de Varsovie. Plusieurs jours, premier jour donc des grandes manœuvres, première grande manœuvre tenue en Europe de l'Est depuis la chute du communisme. Voilà pour les titres. C'est à vous Caroline, la grande table.
Direction Versailles, où s'ouvre aujourd'hui la nouvelle exposition de l'été au château, qui, vous le savez, depuis 2008, invite un artiste de renommée mondiale à investir les lieux. Après Jeff Koons, Xavier Veillant, Takashi Murakami, Bernard Venet, Johanna Vasconcelos, Giuseppe Pennon, Li Yufan et Anish Kapoor, c'est au tour de l'artiste Olafur Eliasson d'établir un dialogue entre son œuvre et le domaine et de proposer une triple expérience sensitive, esthétique et politique. Berlinois, Olafur Eliasson est connu pour ses installations spectaculaires comme l'immense soleil qu'il avait posé dans le hall de la Tête Moderne à Londres en 2003, les chutes d'eau sur les berges de New York en 2008 ou bien les bocs de glace du Groenland à Paris avant la COP21. C'est dire à quel point le temple du roi soleil avec sa galerie des glaces, ses jardins et son grand canal était fait pour l'inspirer. Et de fait, les préoccupations d'Eliasson se retrouvent dans son œuvre versaillaise. Lui qui travaille sur la métaphore de l'eau, la diffraction de la lumière, les dispositifs optiques, le tout dans une approche à la fois écologique et démocratique, il a inventé des installations à l'intérieur comme à l'extérieur du château, insérées dans les espaces. Dans le bosquet de l'étoile, un voile circulaire de brouillard. Dans le bosquet de la colonnade, un bassin de moraine glaciaire bleutée. Et sur le grand canal, une gigantesque cascade artificielle. Et puis dans les salles du château, il a déployé un panoptique géant fait de miroirs réfléchissants, de disques convexes illuminés de jaune qui donnent une nouvelle perception de l'espace et qui permettent au spectateur de devenir lui-même explorateur. Avec Olafur Eliasson, ce n'est plus vous qui regardez Versailles, c'est Versailles qui vous regarde, telle cette petite paire d'yeux en métal doré insérée dans une fenêtre dans la galerie basse. Comment s'est effectuée la rencontre de l'artiste avec le lieu? Réponse sur place avec Olafur Eliasson.
Well, I was so excited to come in the first place.
Alors, that my c'était effectivement that très my, exaltant de venir ici. Effectivement, je pense que mes attentes, d'une certaine manière, ont obscurci mes pensées, hein, parce que j'étais tellement content. Mais ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir passer du temps ici, de marcher dans le château, dans le parc, y compris la nuit, pour vraiment m'imprégner complètement de l'endroit. Et puis, la première chose, c'est d'abord le gigantisme de Versailles. On peut s'y perdre très facilement. J'ai marché, mais heureusement, j'étais pas souvent seule, mais quelquefois, je me suis vraiment perdue. Mais c'était quelque chose de très libérateur parce que, d'une certaine manière, le château de Versailles a beaucoup à voir avec la notion de contrôle, avec la notion de vous dire ce que vous devez faire. Donc évidemment, le fait de se perdre, c'est quelque chose de très libérateur, comme perdre le contrôle. Hein. Et en se perdant, vous vous mettez dans une situation où vous devez retrouver une nouvelle boussole. Et la boussole du château ne fonctionne plus. Hein. La première fois que je suis venue, ça m'a obligé à naviguer de manière différente, à trouver de nouvelles règles. Et puis ensuite, je suis retournée dans mon atelier. Et j'ai eu le sentiment que j'avais été un explorateur, que j'avais navigué à l'intérieur de cet incroyable château et qu'il fallait donc que je revienne avec ma propre boussole. Et j'espère que les visiteurs qui vont venir, hein, en pensant bien sûr à Versailles comme un symbole de la France, mais ces visiteurs, ils viennent de partout, de tous les continents. Et donc du coup, j'ai pensé à tous ces voyageurs, à tous ces explorateurs, à tous ces gens qui avaient leur propre boussole. Et Versailles, ce n'est pas le Versailles d'il y a 300 ans. Hein. On parle de Versailles aujourd'hui. Ce que les gens voient quand ils viennent à Versailles, c'est Versailles aujourd'hui. Et évidemment, ce qu'on voit, ça dépend de la perspective d'où on se place. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé mes esquisses, on va dire.
Quand on pense à ce lieu qu'est Versailles, que ce soit le château, que ce soit les jardins de Le Nôtre, on se dit que c'était évident que c'était un lieu où vous deviez venir travailler. D'abord parce que c'est le roi soleil, Louis XIV, qui était là. Et que le soleil, on sait que c'est quelque chose qui a marqué déjà votre œuvre, bien sûr avec The Weather Project, mais aussi les jardins, parce qu'on connaît votre préoccupation pour l'environnement, pour l'écologie, et le fait même qu'il y a un lieu, un bâtiment dans des jardins aussi grands, nécessairement on se dit que c'est quelque chose qui peut vous inspirer. Il y a aussi les miroirs, les jeux d'eau, les grandes fenêtres, et puis le côté majestueux de l'endroit. Donc tout était fait pour que vous puissiez vous sentir bien.
Un
des éléments clés de mon inspiration, la France, l'Europe, en fait, se sont déplacées d'un gouvernement centralisé, contrôlé par le roi. Hein, et ce château était la preuve de ce besoin de contrôle de toutes les personnes autour de lui. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les choses s'étaient décentralisées. En France, il y a une république, une démocratie. Quand j'ai fait ce projet à la Tête Moderne, The Weather Project, c'était une opportunité de suggérer que les gens et leur expérience étaient en fait la source de l'énergie pour le travail. Hein. Cet élément de décentralisation dans un contexte institutionnel était quelque chose qui était important. Et je pense que Versailles est aussi très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens viennent ici pour voyager dans le temps, en arrière, hein, mais je pense que d'une certaine manière, ils sous-estiment la manière dont ils peuvent s'emparer de leur propre expérience. Et quand je parle d'être un explorateur dans les jardins, je parle de prendre cette responsabilité de la construction de votre propre expérience. Et beaucoup de mes œuvres vont avoir avec ça, avec plus ou moins de succès. On peut dire, par exemple, toute personne qui vient dans une exposition est également un artiste, est également un auteur et quelqu'un qui co-écrit le travail. Hein. C'est une question qui a à voir avec la confiance. Et je vais demander donc aux visiteurs d'explorer, de trouver leur propre chemin à travers le jardin. Hein. Voilà, ne suivez pas nécessairement le chemin dessiné par le roi. Hein. Faites-le si vous en avez envie, bien sûr. Mais soyez votre propre source d'énergie. Et ce sens de l'exploration, je dirais, a le potentiel de faire devenir le visiteur un espèce de coproducteur séducteur. Hein, voilà. Et la France est une démocratie, mais on ne doit plus considérer la démocratie comme quelque chose qui existe une bonne fois pour toutes, hein, parce que si c'est ça, elle devient complètement statique. Mais à partir du moment où on commence à explorer, hein, c'est important. Si on arrête d'explorer, ça veut dire que ça devient moins démocratique, ça devient moins ouvert. Et donc, les institutions culturelles devraient être ces catalyseurs dynamiques de notre questionnement. Ils devraient mettre au défi nos sens de valeur, nos échelles de valeur, et trouver effectivement, mettre en question les valeurs de la France, la démocratie, la dignité. Et qu'est-ce qui se passe avec ces valeurs-là et nous aujourd'hui?
C'est accorder beaucoup de pouvoir à l'art, non? Voilà, Olafur Eliasson.
Yes, but of course, being an artist, I think that's perfectly
oui,
okay. I could say,
évidemment, je suis un artiste, like humor, donc ça me va. Ça pourrait passer pour de l'humour, mais je suis en fait sérieux quand je dis ça.
Being transformed, or how should I say, when it is out.
Culture
in society, it's working.
Est transformée quand elle est dans la société, elle travaille au nom des gens et pas à leur dépens. L'art,
ce n'est
pas quelque chose où vous rentrez pour vous échapper de la réalité, c'est quelque chose qui la constitue. L'art, ou la culture, peut-être, devrais-je dire, c'est à partir de là qu'on réévalue la nature des sociétés qui sont les nôtres, et nous nous trompons aussi en pensant que l'art est constitué d'objets, un projet ici ou un projet là. C'est la manière dont on parle ensemble, c'est la manière dont on se déplace dans la rue, c'est la manière dont on se fait confiance, donc ça va bien plus loin que les objets, en fait. Hein. C'est très intéressant aussi, je crois, parce que c'est une fois qu'on a compris cela, on comprend le besoin incessant de toujours être en négociation. La culture, ce n'est pas une chose figée, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Au lieu, mais surtout à l'expérience, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être activement impliqué dans quelque chose. Je pense que c'est un sentiment qu'on a en lisant un livre, en allant au théâtre, en étant à Versailles, en regardant par exemple une de mes pièces, et vous pouvez être devant, hein. Vous regardez une œuvre, vous vous rapprochez d'un peu plus près et vous vous dites, mais je connais ce sentiment, en fait. Ce sentiment est le mien, en fait. Hein. Et vous reconnaissez donc dans l'œuvre que vous regardez quelque chose qui est vous. Et si cette œuvre reflète votre état émotionnel, ça veut dire que vous pouvez utiliser l'œuvre d'art comme un état émotionnel que vous n'avez pas encore verbalisé. Donc c'est quelque chose qui est libérateur. Hein. Et ça veut dire aussi, bien sûr, que le bâtiment vous regarde. Hein. Et le bâtiment vous regarde, donc c'est un sentiment qui est bon, puisque ça vous dit, d'une part, mais j'ai une valeur quelconque, je ne suis pas seul, j'existe. Et peut-être que j'ai une certaine valeur, peut-être que je ne suis pas un consommateur victimisé, peut-être que je suis quelqu'un qui a de la valeur, de l'importance. Et donc, on va dire que c'est quelque chose qui travaille sur l'inclusion, quelque chose qui se passe à un niveau très intime et qui vous dit qu'effectivement, votre ressenti est important, comment vous vous sentez dans cette pièce est important. Et c'est quelque part une réflexivité qui est profonde. Hein. Voilà, vous êtes réfléchi comme dans un miroir. Et je pense que l'espace culturel peut travailler comme une mise en miroir psychologique. Et évidemment, on voudrait que la démocratie soit capable de prendre tous ces gens qui sont à l'extérieur et de leur dire, ça va, on va vous remettre à l'intérieur, et même si vous n'avez pas le sentiment d'être bienvenu, on va vous permettre d'être à l'intérieur avec nous.
Vous parlez d'intérieur, hein, la Forêt-Liassonne. Et de fait, vous avez travaillé à l'intérieur du château de Versailles et à l'extérieur. Je vous propose qu'on fasse ce mouvement-là de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et vers les jardins. À l'intérieur du château, vous avez choisi donc de faire un jeu de miroir qui est comme un jeu de regard qui renverse la perspective et qui donne une nouvelle perception de l'espace. Non seulement parce que on se réfléchit dans ces miroirs, mais que ça demande, comme vous le disiez, un travail, un effort de la part du spectateur. Ce travail, cet effort sont doublés par le fait que parfois les œuvres ne sont pas immédiatement visibles. Elles sont parfois dissimulées dans l'architecture du château. Pourquoi avoir choisi ce dispositif? C'est pas toujours le cas, hein. Certaines, comme dans la salle des gardes du roi, on ne voit que votre installation en miroir convexe. Mais à d'autres endroits, dans les fenêtres, il faut savoir où est votre œuvre, où il faut vraiment regarder. Pourquoi ce choix de l'invisibilité?
Well, I think there is a sort of a hierarchy.
Alors, je pense
and on the top of the hierarchy,
there une certaine hiérarchie, et au sommet de la hiérarchie, il y a l'expérience que le visiteur a des œuvres. J'essaye de les présenter, mes œuvres, pour que l'expérience de l'œuvre soit plus importante que l'œuvre elle-même. C'est pas pour dire que l'œuvre n'est pas importante. Il y a bien sûr une intentionnalité là-dedans. Je pense que l'œuvre, bien sûr, influence votre expérience, hein, comme vous pouvez dire que le château vous influence et que vous influencez le château. J'essaie de travailler avec le dialogue entre les deux et je me suis senti plus confortable en repoussant les œuvres un peu plus loin pour dire que le dialogue n'est pas avec l'œuvre proprement dite, mais avec l'environnement, ce qui veut dire donc avec d'autres gens, mais aussi avec la structure même du château. Et c'est seulement en se concentrant sur la question de la structure, hein, qui avait à voir avec justement ce qu'était le pouvoir et la structure du pouvoir.
Comment avez-vous sélectionné les endroits dans le château où vous alliez vous arrêter? Comment s'est effectué ce travail d'inspiration, sachant que le château est immense, que, bon, certes, vous avez des contraintes patrimoniales, mais il a bien fallu que votre œil et votre esprit et votre main s'arrêtent à certains endroits. Comment ça s'est effectué, ce choix?
Well, Alors,
j'essayais de choisir les lieux où les gens étaient un peu dans un état de transition, c'est-à-dire, je
ne
dirais pas des endroits où les gens sont dans un moment d'inconfort, mais un moment où l'orientation est bougée. Il y a des lieux, en fait, du château où on est obligé de changer de chemin. Hein. Donc du coup, voilà, si les gens sont, par exemple, obligés de changer de direction, ils perdent un peu la concentration qu'ils peuvent avoir sur les œuvres. Il y a un côté un peu comme ça, flâneur, ou un côté exploratoire. Hein, et les gens se disent, voilà, peut-être que ça, c'est un mur vers lequel il faut que je marche ou pas. Et c'est amusant de voir comment les gens peuvent être plus sur la défensive ou moins. Donc j'ai essayé de localiser mon travail sur des lieux où les gens étaient, à mon avis, moins sur la défensive. Et puis ensuite, pour parler franchement, j'ai mis mes œuvres là où j'avais le sentiment qu'elles étaient belles, qu'elles s'inséraient bien. Donc il y avait une espèce de sentiment de légèreté aussi là-dedans, hein, c'est-à-dire en me disant, oh mais là, ça fonctionne bien, c'est beau. Et quelquefois, ça a été des décisions rapides.
Certains de vos prédécesseurs ici à Versailles, vous êtes le 9e artiste invité, Olafur Eliasson, n'ont pas cherché, comme vous venez de le dire, à dialoguer avec l'architecture ou à faire en sorte de s'insérer dans le bâtiment tel qu'il existe, tel que son histoire le fait exister aujourd'hui, mais plutôt à trancher avec cette histoire, à provoquer une réaction même de choc de la part du visiteur pour montrer à quel point un artiste contemporain dans un lieu d'histoire fait quelque chose de différent. Ce qui est assez propre à ce que vous avez fait, précisément ce dialogue à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Si on sort du château et qu'on se promène dans les jardins de Le Nôtre, là où à l'intérieur vous avez travaillé sur les miroirs et les regards, ce qui va très bien avec le lieu, à l'extérieur vous avez choisi le thème de l'eau.
I've always been interested in nature.
Alors la nature m'a toujours intéressée.
The first times I came here, I thought, you know, inside the castle is culture.
La première fois que je suis venue ici, je me suis dit, voilà, le château c'est la culture et puis le jardin c'est la nature. Mais la vérité c'est que évidemment le parc de Versailles n'est pas du tout la nature, hein, c'est la culture en soi. Hein. Évidemment, il y a les saisons, bien sûr, hein, donc des phénomènes naturels qui influent sur le jardin, mais ce jardin, il a été fait pour le roi, pour montrer qu'il était plus grand que Dieu. Hein. Il pouvait s'y promener à cheval. C'est pas la nature, tout ça. Et la semaine dernière, alors qu'on travaillait ici, hein, il y a eu donc ces intempéries, ces pluies incessantes qui ont causé des inondations à Paris, dont ces inondations dont quelqu'un a dit mais c'est une catastrophe naturelle. Et en même temps, je crois que c'est Hollande qui a dit que cette catastrophe n'est peut-être pas une catastrophe naturelle, mais c'est une catastrophe créé par l'homme, hein, et donc culturel en tant que tel. Donc, Versailles, ça pouvait avoir à voir avec une nature concrète. Et donc, aujourd'hui, il y a l'Anthropocène. Hein, on a vécu dans cette génération. Comme enfant, on pensait qu'on avait la nature d'un côté, la culture de l'autre. Et aujourd'hui, ce n'est plus prêt. Il n'y a plus de nature qui reste. Hein. On pensait que le climat était intouchable et le climat est devenu un espace culturel également, hein, où la main de l'homme est tout à fait perceptible. J'ai effectivement accepté, en travaillant dans le jardin, que ce n'était pas la nature et que peut-être ça facilitait mon travail, parce que mon travail, c'est effectivement de la culture, hein, quelque chose qui est fait par l'homme. C'est des reconstructions à partir d'éléments naturels, hein, des minéraux ou des choses comme ça. Et j'ai commencé donc à commencer à penser à la physicalité, à l'incarnation, au temps, en me demandant comment on pouvait se sentir en marchant dans le jardin plutôt que juste le regarder, comment on pouvait se sentir en marchant dans le brouillard. Et on est tellement obsédé par l'idée d'organiser nos sens, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si on en perd un, hein? Donc, dans le bosquet de l'étoile, il y a un système qui, d'une certaine manière, est comme une machine à fumée ou une machine à nuages. Et lorsque vous marchez là, votre vision disparaît. Et pour un moment, donc vous êtes aveuglé, mais parce que on est tellement dans le confort à travers le regard, on a le sentiment que dès qu'on perd la vue, dès qu'on est aveuglé, on disparaît purement et simplement. Mais la vérité, c'est que immédiatement, on commence à réutiliser d'autres sens. On écoute, on touche les choses, et donc en se déplaçant, hein, j'ai acquis une nouvelle boussole. Hein, donc, comme je le disais tout à l'heure en parlant de mon expérience dans le château au début, le fait d'être perdu. Donc, si on perd ce contrôle de la vue, c'est pas seulement une perte, hein, c'est aussi une ouverture vers une autre perception. Et quand on ouvre à une autre perception, ça veut dire que on s'ouvre à d'autres situations, s'ouvre à d'autres possibilités de liens et de connexions. Et la question, c'est comment on change, comment on se recentre, comment on établit cette nouvelle boussole.
L'œuvre la plus spectaculaire dans le jardin, la forêt Eliassonne, est sans doute cette immense cascade qui est près du Grand Canal. On sait que le nôtre avait eu l'idée de faire une chute d'eau, mais que il n'avait pas pu la réaliser. Est-ce que pour vous, c'était une manière de rendre possible aujourd'hui ce qui était impossible hier?
Well, on one side, you could say it has a strong reference to finishing off what, to continue, I should say,
côté, what Notre bien sûr, led up to do. On va dire que ça a à voir avec la continuité de ce que le nôtre avait voulu faire, mais en même temps, cette cascade représente aussi quelque chose d'autre. Elle montre le temps qui passe. Et on peut dire d'une certaine manière que ce qu'a fait le nôtre, c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire que ce que voulait le roi, c'était cette idée d'immensité, de quelque chose qui ne s'arrêtait pas. Hein. Donc du coup, j'ai mis cette cascade vraiment au centre de manière à introduire un élément fondamental qui était la temporalité. C'est le temps qui existe. Vous et moi, on ne peut pas exister dans un espace sans la temporalité. Hein.
Merci beaucoup, Olafur Eliasson. Thank you very much.
Thank you.
Olafur Eliasson à Versailles, c'est donc à voir jusqu'au 30 octobre. Signalons aussi la parution d'un livre exceptionnel sur l'aventure culinaire du studio d'Olafur Eliasson, qui réunit chaque jour 90 de ses collaborateurs pour partager un déjeuner végétarien convivial et participatif, censé ouvrir l'appétit et les esprits, des repas qui intègrent le processus créatif du studio et qui développent une philosophie de vie particulière et passionnante. Tout un programme de recettes, mais pas que, paru aux éditions Faydon. Traduction Pascal Fougère, prise de son Philippe Etienne. À la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la Grande Table.